Radio Prague, les informations. Bonjour, Mirek Topolánek, le leader de l'ODS, reste toujours sur la sellette. Les Verts ne soutiennent plus le gouvernement de Jan Fischer. Enfin, Charles, le prince de Galles, a achevé sa visite de 4 jours en République tchèque. Les déclarations de Mirek Topolánek sur l'Église, le Premier ministre d'origine juive et le ministre des Transports homosexuel pourraient lui coûter sa place à la tête du Parti civique démocrate ODS. La direction du principal parti de droite du pays se réunit aujourd'hui pour décider du sort de son chef. Le président du Sénat, lui-même issu de l'ODS, a appelé lundi Mirek Topolánek à démissionner. Dans la presse de mardi, Przemysław Sobotka se déclare persuadé que l'ODS peut remporter les prochaines élections législatives sans Mirek Topolánek comme leader. Plusieurs autres membres influents du parti considèrent que les propos de l'ancien Premier ministre, tenus de manière informelle lors d'une séance photo pour un magazine gay, sont de nature à porter atteinte de manière grave à l'image du parti et réclament sa démission. Politique toujours, le chef du Parti des Verts, Andrzej Liszka, a annoncé lundi que sa formation ne soutenait plus le gouvernement dirigé par Jan Fischer et a appelé le ministre en charge des droits de l'homme à démissionner. Depuis la démission du ministre de l'Environnement la semaine dernière, Michael Kotsab reste le seul ministre nommé par le Parti des Verts dans ce gouvernement provisoire. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans nos faits et événements. Charles, le prince de Galles, a achevé mardi sa visite de 4 jours en République tchèque et avec elle sa tournée en Europe centrale. Accompagné de son épouse, le premier héritier au trône britannique s'est rendu dans une école secondaire anglaise de Prague, l'English College, dont il est le parrain. Il s'agissait du dernier point du programme de son séjour en République tchèque. Ce mardi, une rencontre avec Václav Havel était également prévue, mais celle-ci a dû être annulée en raison de l'état de santé de l'ancien président tchèque. Outre sa rencontre avec le prince Charles et la visite de l'English College à Prague, Václav Havel a également remis son voyage en Géorgie, prévu ces mercredis et jeudi. L'ancien président est actuellement fiévreux et souffre régulièrement de problèmes respiratoires. Invité par le président géorgien, Václav Havel devait se voir remettre une importante distinction nationale. Ses derniers ennuis de santé remontent au mois de février, lorsqu'il avait souffert d'une infection des voies respiratoires. Culture, le musée national a inauguré mardi à Prague une nouvelle exposition intitulée « Le prince Venceslas, saint et souverain ». Et ce, en présence du président de la République, Václav Klaus. L'exposition consacrée au prince des Przemyslid, qui a vécu au IXe siècle, a été préparée en collaboration avec la Bibliothèque nationale d'Autriche. Des manuscrits illustrés rares, et notamment le manuscrit intitulé « La vie et le martyr de saint Venceslas » datant du XVIe siècle, ainsi que d'autres œuvres d'art consacrées au patron des pays tchèques, présentés, certains pour la première fois, au public jusqu'au 2 mai. On termine avec un mot de météo. Après la dissipation de quelques brumes matinales, c'est un temps largement ensoleillé qui règne sur l'ensemble du territoire mercredi, jour de la fête des Gabriels, selon le calendrier local. Les températures sont en légère hausse et varient entre 15 et 18 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, voici les titres de l'actualité. À 2 mois des élections législatives, le Parti des Verts a annoncé qu'il ne soutiendrait plus le cabinet provisoire dirigé par Jan Fischer. Après la démission du ministre de l'Environnement Jan Dusik, c'est au tour du ministre en charge des droits de l'homme, Michael Kotsab, de démissionner. Nous vous en dirons plus dans un instant. La Tchéquie se prépare à fêter le 700e anniversaire de l'avènement de Jean de Luxembourg au trône de Bohême. Radio Prague a invité au micro l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg pour parler des principales manifestations. Le festival Fébiofest sera inauguré ce jeudi à Prague. Nous vous proposons un entretien avec son directeur, Ferro Fenich. Et puis, il y aura encore la rubrique hebdomadaire de Radio Prague, Panorama, dans laquelle vous entendrez la suite de l'entretien réalisé avec Denis Dumoulin, professeur d'histoire passionné par les relations tchéco-helvétiques. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le chef du parti des Verts, Andrzej Liszka, a annoncé lundi que sa formation ne soutenait plus le gouvernement dirigé par Jan Fischer et a appelé le ministre en charge des droits de l'homme à démissionner. Depuis la démission du ministre de l'Environnement, Michal Kocap est le seul ministre nommé par le parti des Verts dans ce gouvernement provisoire. Václav Richter.
En expliquant la décision de son parti, Andrzej Liszka s'en est pris au cabinet Jan Fischer, qu'il a qualifié de gouvernement marionnette, et accusé d'être dirigé en sous-main par le chef du parti social-démocrate Jiří Paroubek.
Především vláda ztratila svou původní vyváženost. Nečekané rozhodnutí premiéra.
Le gouvernement a surtout perdu son caractère équilibré. Nous considérons la décision inattendue du Premier ministre de charger le ministre de l'Agriculture de la direction du ministère de l'Environnement comme un affaiblissement de la protection de l'environnement et de la santé de la population tchèque sans précédent depuis 1989. En même temps, il s'agit du renforcement de l'influence d'un seul parti politique au détriment des autres, sans tentative de négocier au préalable sur ce problème.
Politických stran na úkor ostatních bez jakéhokoliv pokusu o předchozí jednání.
Selon Andrzej Liszka, au cours des 20 ans de son existence, le ministère de l'Environnement est devenu une institution respectée de tous les autres secteurs. En confiant l'environnement au ministre de l'Agriculture, le Premier ministre a cependant sapé les efforts de ces 20 dernières années. Parmi les mesures qui ont affaibli la protection de l'environnement en République tchèque, il y a, selon Andrzej Liszka, le retrait du projet de loi sur l'industrie minière de la Chambre des députés, la pression exercée sur le ministère de l'Environnement dans l'affaire de la modernisation de la centrale thermique de Prunejov et l'attitude passive adoptée par les organes compétents vis-à-vis des appels d'offres non transparents de la société Les Forêts de République tchèque, Lesice. C'est Jiří Paroubek, chef de la social-démocratie, qui est le principal visé par les critiques d'Andrzej Liszka. Il n'a pas tardé à répondre en déclarant que par leurs activités politiques irresponsables, les Verts tchèques cherchaient à ressusciter leur parti moribond, car les intentions de vote pour le parti des Verts avoisinent le seuil de 5% et ils risquent de ne pas être représentés à la Chambre des députés.
Toute une série de manifestations sont prévues pour fêter le 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg, dit l'aveugle, avec Élisabeth, sœur du dernier roi des Přemyslides. Avec l'arrivée d'une nouvelle dynastie sur le trône, le royaume de Bohême vivra une période de prospérité qui se poursuivra notamment sous le règne de Charles IV. Les réalisations des rois de Luxembourg à Prague et à l'échelle du royaume, le développement des arts et de la culture seront au cœur de plusieurs événements dont beaucoup auront lieu à l'initiative de la partie luxembourgeoise. J'ai demandé à l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, son Excellence Jean Faltz, de nous les présenter.
Il y aura à peu près une vingtaine d'événements différents et nous avons un site internet à l'ambassade où on peut consulter en détail ce qui va se passer. Pour résumer, je dirais que la chose la plus importante sera l'exposition ici à Prague, qui commencera en novembre et qui sera spécialement dédiée au mariage entre Jean l'Aveugle, comme nous l'appelons, vous l'appelez Jan Lusenburgski, et Elisabeth des Přemyslides. Il y aura aussi une exposition à Ostrava après celle-ci. Au niveau de la musique, nous prévoyons une demi-douzaine de concerts où il y aura des contributions luxembourgeoises aussi au point de vue des interprètes, mais aussi au point de vue des compositions. Par exemple, le 23 juin, dans le cadre du festival de Little Michel, il y aura une pièce écrite spécialement pour cette occasion, pour commémorer cet anniversaire. Au niveau de la littérature, il y aura un certain nombre de livres qui n'existent qu'en tchèque et qui seront traduits dans une langue intelligible par plus de gens que les habitants de la République tchèque. Nous pensons aussi aux enfants. Par exemple, il y aura un livre pour les enfants qui s'appellera « Sur les traces de Jean l'aveugle » pour rapprocher un peu les enfants de l'histoire. Ensuite, au niveau des médias, il y aura donc des émissions radiophoniques, il y aura des émissions télévisées. Il y a un certain nombre de productions audiovisuelles qui sont planifiées, mais dont nous ne savons pas encore si ça va se réaliser ou pas. Et puis, il y aura tout un tas d'autres événements comme la publication d'un timbre en commun par les postes tchèques et les postes luxembourgeoises. Il y aura une monnaie commune qui sera réalisée par nos deux banques centrales. Il y aura des tournois de chevaliers. Il y aura un concours qui est d'ailleurs est en train de se faire actuellement dans les écoles primaires d'un certain nombre de pays pour les enfants et dont le prix sera remis à Pilsen, je pense, au mois de mai. Nous avons déjà produit un CD avec de la musique de l'époque de Guillaume de Machaut, mais qui a été transcrite pour être un peu plus moderne, etc., etc. Donc, je dirais qu'il y a plein d'événements qui nous attendent.
Les événements sont échelonnés jusqu'au mois de février l'année prochaine.
Exactement. Donc, jusqu'au moment de la cérémonie du couronnement qui a eu lieu, si je ne m'abuse, le 7 ou le 8 février 1310. Et donc, les événements se poursuivront jusque-là, tout au long de cette année.
Il paraît que l'intérêt des Tchèques pour cet événement est vraiment élevé.
Absolument. Ce fut une grande surprise pour moi. Quand je suis arrivé ici, il y a 2 ans et demi, j'en ai parlé un peu à tout le monde. J'ai contacté beaucoup de ministères, beaucoup d'agences, des institutions culturelles, etc. Et je dois dire que partout, j'ai trouvé un très, très grand intérêt. Et comme j'ai eu l'occasion de souligner avant, c'est que je crois que les Tchèques ont une prédilection spéciale pour cette période, fin du Moyen Âge, et qui est un peu l'époque d'or de Charles IV. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons en être très fiers.
On passe maintenant au cinéma avec le festival Fabiofest qui commence jeudi dans la capitale tchèque pour une dizaine de jours. Au programme, 185 films de 57 pays différents, des stars et de la musique. Détails avec Alexis Rosenzweig.
La 17e édition du Festival international du film Fabiofest qui commence ce jeudi dans la capitale tchèque avec en ouverture le dernier film de Rainer Werner Fassbinder, Le mariage de Maria Braun, avec l'actrice Hanna Schigula qui sera à Prague pour l'occasion. Un documentaire sur l'architecte Jan Kaplitsky, décédé l'année dernière, et son projet controversé de Bibliothèque nationale. Everybody's Fine de Kirk Jones avec Robert De Niro. Et La fleur du désert, un film sur une célèbre top modèle d'origine somalienne. Ce sont les 3 autres films projetés dès le début du festival. Un festival qui se poursuit jusqu'au 2 avril à Prague, avant de continuer en région. Plusieurs invités de marque sont attendus cette année. On écoute Fero Fenic, le directeur du Fabiofest.
On s'efforce chaque année d'inviter des personnalités vraiment célèbres et reconnues. Leur nombre est limité par nos possibilités financières, mais nous sommes très agréablement surpris que chaque année nous arrivions à accueillir au Fabiofest 2 ou 3 personnalités internationales qui viennent sans prétention. Elles sont toujours enchantées de pouvoir rencontrer le public et débattre avec les gens après les projections. Ce n'est pas habituel dans les festivals.
Diváky v sálech, můžou s nimi po filmech diskutovat. Tohle není obvyklé na jiných festivalech.
Ce contact direct plaît toujours et ceux qui sont déjà venus en parlent à leurs collègues. Souvent, il nous arrive d'inviter une personne qui nous dit qu'elle a entendu parler de notre festival différent et qu'elle viendra avec plaisir. Cette année, ce sera Hanna Schigula, l'une des plus grandes actrices allemandes. À l'heure actuelle, il y aura aussi Bruno Ganz, connu notamment pour son rôle dans Les ailes du désir de Wenders. Autres invités, le Britannique Hugh Hudson et le réalisateur français à la réputation sulfureuse Bruno Dumont. Il y en a d'autres. Cette année, le festival reçoit plus de 70 invités étrangers.
À noter, outre la présence de Bruno Dumont, qui viendra présenter son nouveau film avec l'actrice Julie Sokolowski, que la cinématographie française est plutôt bien représentée cette année au Fabiofest. Le film « Sans dressant » de Fanny Ardant, présenté en sélection officielle du dernier festival de Cannes, sera projeté en compétition. Le réalisateur Gaspard Noé est également attendu à Prague pour présenter l'avant-première de son film « Soudain, le vide ». Et parmi les films français les plus attendus du festival, citons également le concert de Radu Mihaileanu, « Ne te retourne pas » de Marie Devane, « Donne-moi la main » de Pascal-Alex Vincent, ou encore « Yuki et Nina » de Nobuhiro Suwa et Hippolyte Girardot. Et surtout, surtout, ce sera la première occasion de voir à Prague Gainsbourg, vie héroïque, l'excellent film de Johann Spahr.
J'aimerais que pomoct. Comme les autres télégrammes, par Overseas Telegram et le post-office anglais.
C'était les faits et événements. Merci de les avoir écoutés. Le programme sur Radio Prague continue avec la rubrique habituelle.
Panorama.
Panorama.
République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Denis Dumoulin. Bonjour.
Bonjour.
On avait abordé lors de la dernière édition de cette émission l'histoire des relations entre les pays tchèques et la Suisse. Nous avions terminé sur l'influence de Jean Hus et sur cette histoire bilatérale, peut-être plus au niveau religieux. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on aborde l'histoire des relations helvético-tchèques au XXe siècle, avec évidemment des vagues d'émigration tchèque, tchécoslovaque vers la Suisse et, comme dans d'autres pays, des vagues qui sont en 1948, puis en 1968. Qu'est-ce qui caractérise l'immigration tchèque vers la Suisse ?
Je crois qu'il n'y a rien de très original dans ces relations. Je veux dire que on retrouve probablement les mêmes courants dans le reste de l'Europe. Il y a bien sûr une première vague, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale et en particulier après le coup de Prague, avec un certain nombre de Tchèques qui viennent en Suisse. On va les retrouver dans des professions plutôt libérales, plutôt universitaires. Et bien entendu, ça concerne par exemple la médecine, ça concerne par exemple les sciences. Il y a des étudiants qui sont là, il y a des intellectuels qui fréquentent les universités, mais cette émigration n'est pas encore extrêmement nombreuse apparemment. C'est surtout après 68 que cette émigration va connaître un développement. Il est probable que, même si les chiffres ne sont pas très précis ni très connus, ce sont plusieurs milliers en tout cas de réfugiés tchèques et slovaques qui viennent en Suisse et qu'on retrouve par exemple à Saint-Gall autour d'Otachik, professeur d'économie à l'université de Saint-Gall, autour de personnalités du monde religieux à Bâle, autour de la faculté de théologie protestante, à Zurich où il y a beaucoup de médecins. Et pour la Suisse romande, c'est assez étonnant, ce sont souvent aussi des sportifs qui vont venir plus tard dans le monde du hockey, dans le monde du basketball. Et cela constitue autant de petites communautés qu'on retrouve dans ces villes qui forment des groupes assez soudés, assez unis, où la langue tchèque est encore pratiquée, où on se réunit, où on s'organise pour ne pas perdre complètement le contact avec la Tchécoslovaquie. Ou avec la Tchéquie plus tard.
Avec notamment quelques organisations de ce qu'on appelle en tchèque les krajané, c'est-à-dire les compatriotes, et dont une dont on parlait un peu plus tôt, qui est réunie autour de l'épouse de l'acteur suisse Jean-Luc Bidault, elle-même d'origine tchèque.
Oui, alors Marcela Saliverova, qui est, si je me rappelle bien, metteur en scène, et qui a souvent travaillé dans le domaine du théâtre avec son mari, pour la dernière fois avec la mise en scène à l'occasion des championnats du monde de football, ou les championnats d'Europe de football, je me souviens plus très bien de quoi il s'agissait, avait décidé de mettre en scène le roman Les 11 de Klapsubi à Genève. Et c'était quelque chose qui a évidemment était une nouvelle étape dans la collaboration ou dans les rapports qui pouvaient exister entre une littérature tchèque peu connue en français et la Suisse romande. Mais je suis persuadé que si on faisait la liste de tous les ouvrages ou romans de Suisse française traduits en tchèque et l'inverse, on aurait des choses encore assez étonnantes à constater.
aujourd'hui, où en sont les rapports entre la Suisse et la République tchèque? Je sais que vous vous intéressez en tant que professeur d'histoire davantage à l'histoire qu'à l'actualité, mais est-ce que des liens sont restés forts entre les deux pays?
Alors, si je me réfère à l'interview de Masaryk dans les années 20 à un journal balois où il faisait la liste des points communs entre la Tchécoslovaquie d'alors et la Suisse. Il parlait du fait que ces deux pays n'avaient pas d'accès à la mer, qu'ils avaient des communautés culturelles différentes, que c'était dans les deux cas des petits pays. On est étonné de constater que ces liens aujourd'hui ne sont peut-être pas aussi importants qu'on pourrait l'espérer ou on pourrait le croire. C'est vrai que la République tchèque fait partie de l'Union européenne, la Suisse n'en fait toujours pas partie, même si ces liens sont assez étroits.
Mais les deux pays font partie de l'espace Schengen maintenant.
Par exemple, pas seulement de l'espace Schengen, mais de toute une série d'autres accords que la Suisse a signés avec l'Union européenne. C'est ainsi que, à partir des inondations, notamment de 2002, sauf erreur, la Suisse a entrepris de mettre sur pied un programme d'assistance technique à la République tchèque qui avait été touchée par ce désastre et que la coopération technique a été très importante, notamment l'École polytechnique fédérale de Lausanne travaille sur des études d'aménagement hydraulique dans le sud de la République tchèque, dans la région de Písek en particulier. C'est ainsi aussi que toute une série de programmes de sauvetage de documents ont été entrepris avec l'assistance technique suisse. Et plus récemment encore, à l'occasion d'un nouveau crédit voté par le Parlement suisse, la Suisse a entrepris un programme d'assistance dans des domaines juridiques et sociaux dans des régions défavorisées de République tchèque. Donc on voit que ces rapports existent, mais qu'ils sont encore fondés sur une certaine méconnaissance de part et d'autre de ce que sont chacun des deux pays. Il y a encore tellement de gens en Suisse qui croient que le Danube coule à Prague, que ça montre assez à quel point la connaissance réciproque devrait être plus importante.
Denis Dumoulin, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire, toujours en activité. Est-ce que les relations entre la République tchèque et la Suisse, entre les pays tchèques et la Suisse, sont un sujet sur lequel vous aimeriez vous pencher une fois à la retraite?
Ah, certainement, certainement. Pour l'instant, ce que je fais, c'est simplement de collectionner des événements. C'est un petit peu un collier de perles que j'essaye de construire. Et bien entendu, si l'un ou l'autre de vos éditeurs pouvait même mettre sur une piste que je ne connais pas encore, c'est des choses qu'il faudrait approfondir, c'est des choses qu'il faudrait étudier. Cela existe, me semble-t-il, du côté tchèque, avec le livre de Jerzy Kamen sur la Suisse, un petit pays, une grande histoire, mais l'équivalent en français n'existe pas à ma connaissance et ça mériterait certainement d'être approfondi. Peut-être que quand j'aurai un peu plus de temps, je m'y attellerai volontiers.
Mais vous serez le bienvenu à Radio Prague, en tout cas pour en parler à ce moment-là. Denis Dumoulin, je vous remercie beaucoup d'avoir pu nous parler de ce sujet qui est intéressant pour ces deux pays et vous repassez quand vous voulez dans nos studios ou dans nos locaux. Merci à vous.
Merci à vous.
C'est tout dans ce programme en français sur Radio Prague. Merci de votre attention et à la prochaine, soit sur nos ondes, soit sur notre site internet www.radio.cz. Au revoir, nasledanou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kilohertz, at 1700 hours on 5930 kilohertz, at 1800 hours on 5930 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 kilohertz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kilohertz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kilohertz and at 2230 hours on 7355 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kilohertz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kilohertz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kilohertz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.